RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour, c'est le supplément du samedi. Au menu, tension en mer de Chine et crispation à la frontière américano-mexicaine. En deuxième partie d'émission, nous y serons à la frontière. C'est la campagne électorale. Une bonne partie de la classe politique dénonce une frontière passoire, accuse l'immigration d'être sans contrôle, les responsables de bien des maux. Abla Jounaïdi est allée sur place à suivre son reportage et puis elle viendra en studio nous raconter. C'est une bataille navale qui n'est pas encore ou pas vraiment militaire. On est au plus près de l'action armée sans y basculer. C'est une guerre d'influence à coups d'intimidation. L'enjeu est stratégique, géopolitique. Depuis des mois, les tensions montent en mer de Chine méridionale. À ce point, c'est inédit. En fin de semaine, Pékin a d'ailleurs clairement dit que l'île de Titou lui appartenait. Mais Titou, c'est philippin, un endroit où l'on ne va pas en principe. Mais Nicolas Roca a réussi. Dans 20 minutes, on l'interroge, mais d'abord on écoute son grand reportage. Mer de Chine, la réplique des Philippines à Pékin.
À la base aérienne Antonio Bautista, l'équipage de l'armée de l'air philippine se prépare. Dans quelques instants, le NC-212I s'élancera de cette longue piste de décollage qui fait partie des installations militaires estampillées ETCA. Cet acronyme désigne l'accord de défense qui lie les États-Unis et les Philippines. Pour la base aérienne, cela signifie qu'en échange du financement de Washington, l'armée américaine peut avoir accès à ces installations. Centre de commande, entrepôt de munitions, amélioration de la piste de décollage, le site a fait peau neuve. Des améliorations liées à son emplacement, il s'agit de la base la plus proche des îles Spratleys. En survolant cet archipel contesté par la Chine, le déséquilibre des forces saute aux yeux. Après une trentaine de minutes de vol, les portes du biturbopropulseur philippin s'ouvrent brutalement. Deux soldats sortent leur appareil pour photographier les rangées de navires chinois qui quadrillent la zone autour du banc, second Thomas. À 200 km des côtes philippines, il est à plus de 1000 km de l'île chinoise de Hainan. Alors que l'avion amorce sa descente, un petit caillou apparaît dans le hublot. Vu du ciel, il semble n'y avoir rien d'autre qu'une piste d'atterrissage et quelques bâtiments. Ce rocher, c'est Titou, ou Pagasa en tagalog, un bout de terre en plein cœur de cette zone contestée, habité depuis la fin des années 1990 par des civils. Ils sont plus de 200 désormais.
Je m'appelle Ronnie Kojamko, j'ai 48 ans, et je suis arrivé ici à Pagasa en 1999. À l'époque, on était seulement 6 civils. Il n'y avait rien ici, aucune installation, seulement ce petit dispensaire. Et là-bas, tout cela, c'était de la forêt.
Avec sa moustache et sa casquette vissée sur la tête pour l'abriter du soleil, Ronnie est une figure centrale de l'île. C'est l'un des premiers habitants de Pagasa.
Nous sommes plus que des civils. Ici, nous avons un devoir à remplir envers notre pays. Nous vivons sur Pagasa pour défendre notre territoire, conserver ce qui nous appartient. On n'est pas juste là en tant que fonctionnaire municipal, mais en tant que gardien du territoire. Et c'est notre devoir de faire savoir au monde entier que des Philippins vivent ici.
Cette curieuse installation civile sur un bout de caillou s'explique par le positionnement stratégique de l'île. Occupées par Taïwan jusqu'en 1971, les Philippines sont parvenues à s'en emparer en profitant d'un orage. Lorsque les différents territoires ont émergé avec les voisins vietnamiens et chinois, il est devenu important pour Manille d'occuper le terrain.
Quand on est arrivé, le maire de l'époque nous avait donné comme mission de nettoyer la zone. Et puis en 2003, les gens ont commencé à arriver, car le maire souhaitait que des civils s'installent ici. On nous donnait du bétail pour nous permettre de vivre correctement et il y avait déjà des gens qui souhaitaient rester.
Et à cette époque, quel était le comportement des navires chinois ?
Il n'y avait pas la moindre présence chinoise. Il n'y avait que des bateaux de pêcheurs vietnamiens, mais pas de garde-côtes ou de bateaux chinois. En 2007, ils ont commencé à drainer le sable et à prendre le corail. Et puis nous avons découvert qu'ils prenaient cela pour construire leur île artificielle là-bas.
Cette île, c'est le récif de Subi, l'un des 7 avant-postes chinois dans les Spratleys.
Avant, on se sentait très seul ici. Mais maintenant, il y a beaucoup de civils qui vivent ici. Mais si on parle de la mer, de notre mer, forcément, nous sommes inquiets, car il y a beaucoup de navires chinois là-bas. Pour beaucoup d'entre nous, la pêche est un moyen d'obtenir des revenus supplémentaires. Mais nous sommes forcément inquiets, car leurs navires sont là, juste à côté. Ce n'est plus comme avant, quand on allait pêcher sereinement. Maintenant, on craint d'être pourchassé.
Une scène que connaît bien Larry Hugo, l'un des plus vieux pêcheurs de Titou.
Hello Larry.
Hello,
good morning, how are you?
Nice to meet you, sir.
Nice to meet you.
Ce quadragénaire installe méticuleusement la prise du jour sur un séchoir installé dans son jardin avant qu'on lui demande de se plonger dans ses souvenirs.
À mon arrivée, il n'était pas encore dans le secteur. Et quand on a découvert qu'il construisait sur le récif de Soubi, ils ont commencé à nous empêcher, nous les civils, de nous rendre autour de la zone. Ils nous bloquaient pour que l'on ne voit pas ce qui se passait. Une fois, j'ai failli être percuté par les navires chinois.
Face à ce qu'il appelle les milices chinoises, une forme de lassitude s'est installée.
Je me suis habitué aux Chinois, je n'ai plus vraiment peur d'eux. Comme la pêche est mon activité principale, je les vois tous les jours. Ils sont juste à 2,5 miles nautiques d'ici. Mais on évite les zones où ils sont rassemblés pour limiter le risque d'accident.
Mais s'il s'est habitué à l'omniprésence des navires de Pékin, le gouvernement, lui, la rejette. Depuis son élection en 2022, le président Ferdinand Marcos Jr. prône la fermeté face aux incursions chinoises.
Le précédent gouvernement avait des relations amicales avec la Chine, donc ils ignoraient ce qui se passait ici. Maintenant, je vois les choses s'améliorer.
Car les autorités actuelles veulent faire de Pagasa un symbole, celui de la lutte du pays contre l'ogre chinois. Alors l'État mobilise des ressources pour montrer que les civils occupent le terrain. Sur la place du village, quelques femmes discutent, assises sous une cabane à l'abri du soleil de plomb qui frappe l'île à l'heure du déjeuner. Parmi elles, Anna Rea Banya.
Nous sommes encouragés à vivre ici parce que l'on reçoit du riz, de la nourriture, un logement et de l'eau gratuitement. C'est cela qui nous fait rester.
À cela s'ajoute une pension mensuelle de 130 euros.
Je suis vraiment satisfaite de ma vie ici. Nous pouvons mettre beaucoup d'argent de côté car il n'y a pas de frais d'éducation. Les fournitures scolaires sont gratuites. L'éducation est aussi de bonne qualité car il y a des professeurs du ministère de l'Éducation qui viennent ici.
L'école pour les 83 enfants de Pagasa se déroule dans une petite salle de classe. Au milieu des enfants qui courent, une enseignante fraîchement débarquée tente de maintenir le calme, tant bien que mal.
Hello teacher.
My name is Leilani.
Je suis Leilani Magayan de Quezon sur l'île de Palawan.
Palawan.
When did you arrive here?
Last Friday.
Vendredi dernier, nous sommes 6 enseignants à être arrivés à Pagasa ces derniers jours. Comme nous sommes de nouvelles recrues, on va rester ici pendant au moins 3 ans.
We are going to stay here for 3 years.
Les autorités effectuent des rotations fréquentes, car vivre sur ce petit rocher est un sacrifice. Cela signifie se couper de ses proches, mais aussi affronter de vrais défis logistiques, notamment dans le domaine de la santé. Seul un petit dispensaire est géré par l'infirmière Jocelyne Delacroix.
There is really a need of medical staff. That's why me and my...
Il y a un vrai besoin de personnel médical. C'est pour cela qu'avec mes collègues sages-femmes, nous avons décidé de venir ici. Nous sommes là depuis 2021. Pour l'instant, il n'y a pas de médecin ici.
No, we don't have any doctors here.
Okay. Pour les plus de 200 habitants, seuls quelques lits et le strict nécessaire pour les premiers soins sont à disposition.
For now, we have complete medicines for...
Nous avons tout le nécessaire pour la médication orale, mais il nous manque les traitements en intraveineuse. Pour l'instant, le processus est le suivant. Si nous avons un patient ici, nous l'examinons en tant qu'infirmière et sage-femme et ensuite nous envoyons toutes les informations à un médecin des gardes-côtes des Philippines.
Philippine Coast Guard.
En cas d'urgence, le patient doit être évacué par l'armée de l'air. Mais la vie devrait continuer à s'améliorer sur ce petit rocher, véritable anomalie géopolitique. Pour Mani, l'idée est de préserver la présence civile afin de pouvoir peut-être un jour exploiter la zone économique exclusive autour de Titou. Un trésor maritime riche en pêche mais aussi en gaz naturel. C'est un enjeu crucial alors que le principal gisement du pays sera bientôt à sec. Lors de sa visite, le président de l'Assemblée nationale a promis de nouveaux investissements à hauteur de 50 millions d'euros afin de poursuivre la modernisation du port, du bureau des gardes-côtes mais aussi d'améliorer la vie des habitants. Une aide dont tous les Philippins affectés par le conflit territorial avec Pékin ne bénéficient pas. Car la présence chinoise se fait aussi sentir plus au nord, proche du récif de Scarborough, une zone de pêche historique des habitants de la région de Zambales et plus particulièrement de ceux de la ville de Masinloc. Les 45 000 âmes qui l'habitent ont été propulsées sur le devant de la scène médiatique après la recrudescence d'échauffourées entre navires philippins et chinois.
Professional.
Dans le petit port de la ville, les prises du jour sont vendues à la criée. Les poissons entassés dans des bacs blancs sont fréquemment arrosés d'eau de mer afin de garder un semblant de fraîcheur. C'est dans ce décor qu'Anthony nous interpelle.
Une interview sur Scarborough, j'ai plein de vidéos de Scarborough.
Rapidement, le trentenaire, plutôt affable, nous guide vers son capitaine qui organise leurs expéditions vers le récif. Une fois réveillé de sa sieste, Efren va s'asseoir au soleil sur une chaise en plastique. Il profite de ses quelques jours sur Terre avant de repartir en mer. Avec ses cheveux blonds en bataille et son short des Los Angeles Lakers, difficile de deviner que c'est un marin aguerri. Il a pourtant l'habitude de diriger des expéditions d'une à deux semaines vers Scarborough.
C'est une zone avec beaucoup de bons poissons là-bas, surtout la zone ouverte, celle qui est gardée par les Chinois. Mais on ne peut pas s'en approcher. C'était seulement pendant la présidence de Duterte que l'on a pu y retourner. Mais il y a toujours des zones inaccessibles gardées par les Chinois.
Dans leurs frêles embarcations, ils ne pèsent pas bien lourd face à l'écrasante flotte de Pékin.
Les bateaux des gardes-côtes chinois sont plus grands que ceux des Philippins. Il n'y a pas un, mais 7, 10, nettement plus de bateaux chinois.
Ils nous empêchent de pêcher. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent de gigantesques projecteurs de lumière qu'ils braquent sur nous. Et cela diffuse tellement de chaleur que c'est insupportable. Il ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu quittes la zone. Cela nous fait perdre beaucoup d'argent.
Sur leur portable, ils font défiler les vidéos de leur rencontre avec les navires chinois.
Regardez là, vous voyez ? C'est un navire de notre bureau de pêche et des ressources aquatiques en train de se faire asperger par des canons à eau chinois. Leur bateau a été endommagé. Là, ils sont trois à se faire asperger par leurs canons.
Ils s'estiment démunis et en partie abandonnés par les autorités incapables de défendre le territoire.
Nous avons beaucoup de gardes-côtes qui viennent, mais ils ne peuvent pas passer et aller dans cette zone. La Chine protège ses pêcheurs, mais pour nous, il n'y a pas de protection. Souvent, quand on est interviewé et qu'on nous demande « qui vous protège ?», on répond « les gardes-côtes chinois ». C'est les seuls à être là.
Malgré leur sens de l'humour, la multiplication des accidents les inquiète. Ces derniers mois, les accrochages se sont répétés à tel point qu'ils craignent que les tensions ne basculent dans un conflit armé.
Nous, on essaie de gagner de l'argent. Eux, la guerre, c'est leur vie.
Mais malgré le danger, ils y retournent dès que possible.
Dès que la météo permet d'aller à Scarborough, on y va. On pourrait pêcher ici aussi, mais ils sont trop petits, pas comme là-bas. On préfère Scarborough, la pêche y est vraiment meilleure.
Pour l'instant, le gouvernement ne compense pas leur perte de revenus. Mais les autorités essayent de s'attaquer au problème, car le harcèlement chinois, comme l'appellent les Philippins, s'est transformé en une véritable cause nationale. À tel point que des citoyens se sont joints à la lutte. En décembre, un convoi civil a été organisé pour aller ravitailler les pêcheurs philippins et les soldats en poste dans la mer de Chine méridionale. Rafaela David, présidente du parti d'opposition Akbayan, est à l'origine du projet. Nous la retrouvons dans un parc du centre de Manille.
Notre objectif, c'était d'apporter l'esprit de Noël à notre avant-garde et aux communautés de pêcheurs qui sont le plus atteints par les actions de la Chine et leur occupation de la zone. C'était une manière de montrer que des citoyens ordinaires peuvent se réunir et défendre notre intégrité territoriale, notre souveraineté dans nos eaux contre le harcèlement chinois.
Près de 200 volontaires ont embarqué dans deux bateaux accompagnés par des dizaines de pêcheurs venus les escorter.
Nous sommes partis vers minuit et au réveil, on apprend qu'il y a déjà du harcèlement qui se déroule à l'atoll Second Thomas alors qu'on n'y était même pas encore. Vers 3h40 de l'après-midi, on pouvait déjà voir ce grand bateau se diriger droit vers nous. Et on s'est rendu compte, quand il s'est approché, que c'était un bateau de la marine chinoise, un bateau de guerre.
Chinese naval ship. It was a warship.
Rapidement, Rafaela comprend qu'il sera difficile d'atteindre le banc Second Thomas et de réapprovisionner les soldats.
Après quelques minutes, un des volontaires vient nous glisser qu'un autre navire se dirige vers nous, et puis un autre. À ce moment-là, il y en a au moins trois. Et puis notre capitaine voit qu'un des navires des gardes-côtes a changé de direction et tente de venir nous rentrer dedans.
Face à la présence constante des navires chinois, la mission a été jugée trop dangereuse pour être poursuivie.
Notre capitaine a pris la décision de nous faire rentrer, car s'il ne le faisait pas, il n'y aurait pas assez de temps pour éviter une collision avec le bateau des gardes-côtes. Et le capitaine avait la responsabilité des gens présents à bord. Et même si nous voulions continuer, il a pris la décision qu'il fallait rentrer.
Un petit navire du convoi est tout de même parvenu à poursuivre sa route et apporter des provisions aux soldats et aux pêcheurs. Rafaela et les autres membres de la coalition souhaitent renouveler l'expérience pour normaliser leur présence dans la zone économique exclusive de leur pays. Ces missions de réapprovisionnement sont habituellement organisées par les forces armées philippines. Nous nous rendons dans leur quartier général.
Radio.
Midja?
What?
Midja?
Yeah, French radio.
Camp Aquinaldo, à Quezon City, dans la zone urbaine de Manille. Un large complexe militaire avec son golf et ses nombreuses installations, depuis lesquelles les officiers déterminent et mettent en application la politique de défense du pays. La colonelle Francette Margaret Padilla est la nouvelle porte-parole des forces armées philippines. Elle détaille les menaces auxquelles l'armée a dû faire face dans ces eaux contestées.
Les gardes-côtes chinois ont perturbé nos missions de réapprovisionnement de différentes manières. Dans certains cas, il y a des manœuvres dangereuses. Nous avons aussi des attaques de lumière laser vers ces navires et des canons à eau. Nous considérons qu'il s'agit d'activités illégales parce que nous effectuons simplement une mission régulière à l'intérieur de notre zone économique exclusive. C'est donc le problème que nous essayons de résoudre ces dernières années et ces derniers mois.
Et pour y parvenir, le pays a connu une rupture stratégique avec l'arrivée au pouvoir de Ferdinand Marcos Jr.
Our president actually gave a directive.
Notre président a défini une directive qui est la fondation de notre stratégie. Il a dit « Nous ne céderons pas un pouce de notre territoire ». Et c'est ce que nous faisons. Un processus est en cours afin d'utiliser nos fonds de modernisation pour renforcer nos capacités unilatérales. C'est comme cela que nous souhaitons protéger réellement nos eaux territoriales.
Moderniser la marine et l'armée dans son ensemble semble être un mal nécessaire pour réduire l'énorme écart qui existe entre les capacités des armées philippines et chinoises.
Nous allons continuer à renforcer notre dispositif de sécurité. Nous augmentons le nombre de nos patrouilles aériennes, maritimes, la présence de nos forces navales et aériennes. Nous allons également retirer des ressources consacrées à lutter contre les insurrections internes afin qu'elles puissent être consacrées à la défense de notre territoire. Et puis cela sera également renforcé par nos alliés grâce à nos partenariats et à des collaborations avec des nations qui partagent les mêmes valeurs.
C'est le virage clé qui fait désormais de la zone l'un des points de tension géopolitique les plus importants au monde. Les Philippines se sont rapprochées des États-Unis. L'armée américaine a désormais accès à 9 nouvelles bases, dont 2 à quelques centaines de kilomètres de Taïwan. Mais l'Australie, le Japon et la France participent aussi cette année aux exercices militaires annuels philippins intitulés Balikatan. La Chine, elle, n'est évidemment pas conviée.
Maire de Chine, la réponse de Manille à Pékin. Bonjour Nicolas Roca.
Bonjour Patrick.
Vous êtes le correspondant de RFI en Corée du Sud, mais vous rentrez des Philippines. Vous étiez notamment sur cette île de Titou, en plein milieu de la mer de Chine. Une île pourtant assez difficile d'accès, et cela pour plusieurs raisons.
Oui, d'abord des raisons d'autorisation de la part de l'armée, car elle est contrôlée par les militaires. Il a donc fallu des longues négociations avec les autorités philippines avant de pouvoir y accéder. Mais une fois qu'on a la fameuse autorisation, c'est encore compliqué, parce qu'il y a deux moyens pour accéder à Titou, ou bien Pagasa en tagalog, en philippin. Soit on y va par bateau, c'est 27 heures par beau temps, mais ça peut monter jusqu'à 56 heures si on doit prendre la route la plus longue. En avion, c'est entre 1h30 et 2h30 depuis la grande île voisine de Puerto Princesa, mais si on part de Manille, c'est encore plus long. Donc c'est beaucoup de contraintes en effet pour y accéder. Le voyage a aussi été reporté à 3 reprises, car ça dépend des conditions météo. Et puis on a pu profiter finalement de la volonté du gouvernement philippin de vouloir parler des problèmes auxquels les Philippins font face dans cette mer de Chine et du déséquilibre des forces avec Pékin. Et c'est un peu pour ça qu'on a pu y accéder et que l'armée philippine nous a emmenés passer quelques heures sur l'île. Quand on y est, il faut le savoir, on est quand même sous la surveillance de soldats philippins qui nous suivent, qui écoutent ce qui se passe durant les interviews. Mais comme c'était un accès évidemment assez rare, on a décidé de respecter les règles.
Je reviens, Nicolas, d'ailleurs, sur ce choix des Philippines d'ouvrir ses portes et d'inviter des journalistes, en l'occurrence étrangers. Vous l'avez souligné vous-même, c'est assez exceptionnel. Est-ce qu'ils voulaient justifier cette volonté de communiquer ?
Ils n'ont pas justifié directement, mais on nous fait quand même sentir cette volonté de pousser ce discours, de faire comprendre que voilà, dans cette zone clé, il y a un déséquilibre des forces qui est extrêmement important. Et dans une période où il y a un conflit un peu lancinant entre les États-Unis et la Chine, une opposition entre les démocraties occidentales et la Chine, Manille a décidé de jouer un petit peu cette carte afin de pouvoir avoir un soutien de la part de l'Australie, du Japon, des États-Unis, mais de la France aussi, et de pouvoir un petit peu rééquilibrer la balance face à la Chine qui impose sa loi dans la région. Et donc voilà, il y avait une forme de pression pour mettre en avant ce discours philippin et ce déséquilibre des forces qui se constate d'ailleurs sur le terrain. Mais il n'y a pas de justification directe de la part des autorités philippines. On ne sait pas pourquoi on est choisi et pas un autre média pour aller sur cette île.
Alors il y a une chose qui apparaît très clairement dans votre grand reportage, Nicolas, c'est la volonté des Philippines de présenter cette île de Titou comme un endroit presque normal, avec désormais des habitants, ce qui n'a pas toujours été le cas. Compte tenu de cette situation, de l'environnement géopolitique, est-ce que c'est quelque chose qui se ressent quand on échange avec eux ?
Oui, ça se ressent parce qu'ils ont tous effectué des sacrifices pour venir sur cette île. Ils sont éloignés de leur famille. Les conditions de vie, même si elles s'améliorent doucement, restent quand même assez spartiates. Il y a une ambiance vraiment qui est très particulière. On a l'impression d'être dans une espèce d'anomalie géopolitique, en effet, que les habitants ne devraient pas vraiment être ici et qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de choses à faire pendant la journée. On les voit un peu jouer au billard, discuter entre eux. Certains vont à la pêche, il y a de la construction, mais il y a un peu un sentiment d'ennui lancinant sur cette île. Et d'ailleurs, quand on échange avec eux, on le sent, il y a à la fois un discours de réalité où on nous raconte cet ennui, une forme de difficulté d'être à côté, en effet, de navires chinois, de constater la présence chinoise extrêmement proche. Il y a énormément d'installations militaires sur l'île, donc c'est difficile d'imaginer qu'on puisse vivre en toute quiétude. Et en même temps, ils vont raconter l'ennui, le quotidien auquel ils sont habitués. Certains d'entre eux vivent là depuis 1999. Donc voilà, il y a une forme d'habitude, mais on ne peut pas dire qu'on soit sur une île comme une autre dans les Philippines.
Merci Nicolas Roca.
Merci.
Grand reportage, le supplément, deuxième partie.
Cette fois, c'était des policiers. La première fois, des bandits armés, c'était quand on est arrivé dans le pays. Comme ils nous ont tout volé, on a dû passer un an au Mexique.
Ils se moquent qu'on soit avec des enfants. Pourtant, je leur ai dit, regardez dans quel état je suis, regardez mon ventre, je vais avoir un bébé.
Aux États-Unis, la campagne pour les élections générales de novembre prochain a commencé. Le camp républicain et le camp démocrate échangent coup pour coup. Comme à chaque scrutin, le bilan économique du président sortant est critiqué par ses adversaires, mais rien n'occupe autant de place que la question de l'immigration. La gestion de la frontière avec le Mexique est jugée calamiteuse par Donald Trump et son parti, qui en ont fait un thème central de la campagne. Alors, comment cela est-il vécu par ceux qui côtoient au quotidien cette frontière ? États-Unis-Mexique, la frontière éternelle en jeu électoral, C'est un grand reportage d'Abla Jounaïdi et Julien Boileau.
Poste frontière de Nogales, au sud de l'Arizona. L'hiver dernier, piétons et automobiles se massaient plus que jamais au pied des portiques. L'autre point de passage, Lukeville, avait été fermé par les autorités. En cause, selon Washington, un afflux record de migrants mobilisant les gardes-frontières. L'effet de la fermeture de Lukeville a été immédiat, ici à Nogales. Adrian travaille pour une entreprise de transport par minibus.
Je suis né aux États-Unis et j'ai grandi au Mexique. Je travaille aux États-Unis et je vis au Mexique. Ça permet de gagner sa vie correctement. Lorsqu'ils ont fermé le passage ici, les files d'attente se sont rallongées de façon impressionnante. Il fallait attendre des heures, un vrai chaos. Je crois que fermer la frontière, ça ne sert à rien. Si les gens veulent passer, ça ne les arrêtera pas. Souvenez-vous de ce qui s'est passé sous Donald Trump avec le mur. Les Mexicains ont construit des échelles plus hautes et des tunnels plus profonds.
En décembre dernier, la Customs and Border Protection, l'agence fédérale de protection des frontières, rapportait 250 000 rencontres avec des migrants, un record pour un seul mois. Des rencontres, c'est dans le jargon de l'agence, une interaction avec un non-citoyen américain. Parmi ces migrants, une diversité géographique inédite. Arrêté à la frontière, Hassan a été relâché à Tucson, dans l'Arizona. Le temps que sa demande d'asile soit examinée, son parcours est aussi long que surprenant.
On va se démarrer au Sénégal, Maroc, Espagne, Salvador, Nicaragua. J'ai une chance de venir ici sans un problème.
Comme nombre de ses compatriotes, Hassan a fui la répression des manifestations anti-gouvernementales de 2023 dans son pays. L'an dernier, l'Agence fédérale de protection des frontières a rapporté 13 526 rencontres avec des Sénégalais. Ces migrants, certains élus de l'Arizona disent vouloir en contrôler l'afflux. Fin février, à Phoenix, les Républicains qui dominent le Sénat local ont présenté plusieurs projets de loi. L'un d'eux faisait du passage illégal de la frontière un crime d'État, autorisant les fermiers à tuer les contrevenants qui fouleraient leurs terres. Intitulée la loi sur l'invasion de l'Arizona, elle est inspirée d'initiatives du même genre au Texas et fait enrager les organisations de défense des droits des Latinos comme Lucha. Gina Mendez dirige l'organisation.
Ces histoires d'invasion de migrants, c'est tout simplement faux. Il y a une déconnexion immense. Ce qui se passe, en fait, c'est que les gens ne peuvent pas rester du côté mexicain. Il n'y a pas de travail. Beaucoup de ces personnes côté mexicain vivaient en réalité ici, côté américain, et attendaient leur régularisation. Elles ont été expulsées à cause des lois passées en Arizona il y a quelques années, comme la SB 1070. Parmi ces gens, il y a des enfants qui sont nés ici à Phoenix et qui vivent maintenant juste de l'autre côté de la frontière. Ils veulent poursuivre leur éducation dans leur pays de naissance, ici aux États-Unis. Et ce sont elles les cibles de ces législations qu'on cherche à faire passer aujourd'hui.
Les membres de l'organisation Lucha en sont certains. Comme en 2010, lorsqu'une loi visant la communauté latino a été adoptée en pleine campagne électorale, le camp républicain entend remettre le couvert en 2024 pour affaiblir Joe Biden. À Yuma, une ville frontalière plus à l'ouest, l'agriculture dépend depuis des décennies des travailleurs mexicains. Avec ou sans permis de travail, on les croise dans les rues de Yuma, la capitale mondiale de la laitue Iceberg, celle qui garnit les hamburgers. Le sujet semble délicat aux fermiers qui les emploient. Plusieurs ont poliment décliné nos demandes d'interview. Sur les hauteurs de la ville, Jonathan Lines, un élu local, dément que la crise migratoire ne soit qu'une « red meat », de la viande rouge comme on dit aux États-Unis, un sujet électoraliste pour son camp, le Parti républicain. Pourtant, à l'écouter parler, on est saisi par l'amalgame permanent qu'il entretient entre l'immigration et la criminalité.
Well,
Is it red meat? No, I don't think it's red meat. It's one of the top two besides the economy.
Vous me demandez si on parle de ce sujet juste pour attirer les électeurs? Non. L'immigration clandestine arrive en tête des préoccupations quotidiennes des Américains, et cela, quel que soit leur parti politique. Il ne se passe pas un jour sans que dans le journal, vous voyez un étranger en situation irrégulière incarcéré pour un meurtre ou pour un viol. Ces gens pensaient trouver quelque chose pour eux ici aux États-Unis, mais Biden les a laissés tomber et nos communautés ne peuvent tout simplement pas s'en occuper. Les gens font déjà face à un pouvoir d'achat réduit de 25% depuis que Biden est au pouvoir. Voilà deux échecs cuisants à mettre au compte de son administration.
Au Congrès, à Washington, aucun accord bipartisan n'a été trouvé sur le renforcement de la sécurité à la frontière sud. Voilà près de 40 ans que le pays ne s'est pas doté d'une réforme globale sur l'immigration. Au fil des années, en revanche, le territoire le long de la frontière s'est progressivement hérissé de tours de contrôle, équipés de caméras, de senseurs sophistiqués et de barrières. Nous cheminons le long du mur bâti par l'administration Trump.
Un jour, on est tombé sur une équipe de techniciens qui réparait une partie du mur qui avait été sectionné. Il y en avait vraiment beaucoup le long de la frontière, tellement que c'est presque dérisoire de tout faire réparer. Il y a toujours un endroit cassé. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de cette réalité. Ils imaginent que le mur est un outil très efficace car il est long et qu'il a l'air solide.
Duggan Meyer est chercheur en géographie à l'Université d'Arizona. Ce mur qui s'étend du Texas à la Californie, il le connaît bien. Il arpente la zone, l'une des plus traversées et l'une des plus sécurisées au monde depuis des années avec le photographe Colter Thomas. Un jour, ils font une découverte.
L'équipe était escortée par deux officiers de sécurité privés, avec chacun un véhicule. L'une des voitures avait sa plaque d'immatriculation noircie, ce qui est interdit dans l'État. Je ne vois même pas comment c'est possible. L'autre voiture portait un sticker d'une milice anti-gouvernementale, les Free Percenters. Elle a été classée organisation terroriste par le Canada. C'est étrange, cette collusion entre des groupes de sécurité et des milices privées ou des individus qui leur sont rattachés. On est inquiet pour toutes les organisations humanitaires qui vont à la rencontre des migrants dans le désert pour leur fournir de l'aide. Je trouve que c'est effrayant, car ils sont de plus en plus menacés à cause de cela.
La violence de ces groupes, le village d'Arivaca l'a découverte un jour avec effroi. À un jet de la frontière, la petite communauté, peuplée d'amoureux de la nature et d'anciens hippies, a gardé les stigmates d'un épisode survenu le 30 mai 2009. Ken Buchanan, grande barbe et joint de cannabis à la main, nous raconte.
Une milice privée avait décidé qu'elle allait se saisir du problème des migrants et pour cela, elle avait besoin d'argent. Alors, ses membres ont fait irruption chez un prétendu dealer de drogue ici, qui ne l'était pas en réalité. Ils l'ont tué, de même que sa femme et sa fille. Tous ont été arrêtés et jugés. Depuis lors, les gens sont divisés. Mais comme dans toute une communauté humaine, certains laisseraient un migrant mourir de soif, d'autres lui donneraient un verre d'eau. Certains ont du cœur, d'autres sont emplis de haine. À vrai dire, je suis fatigué de toute cette merde. C'est toujours les mêmes marchands de peur que j'ai entendus toute ma vie. On ne pourrait pas tout simplement s'aimer comme des frères et des sœurs que nous sommes, ou au moins s'ignorer. Plus je vieillis, plus je deviens cynique. Vous savez, j'ai tout fait pour ne pas le devenir, pourtant.
Si ça fait sens à vous, vous êtes mieux que moi. Ça ne fait pas sens à moi.
Nous laissons Ken Buchanan à ses doutes et reprenons la route direction le mur. Fernando Quiroz travaille pour l'ONG Arizona California Humanitarian Coalition. C'est avec lui que nous longeons la barrière frontalière. Lui aussi a vu sévir les membres des milices d'extrême droite.
Oui, ils viennent ici. Ils menacent, armés jusqu'aux dents et en tenue de camouflage, comme si une guerre avait lieu à la frontière. J'essaie de ne pas les provoquer, ils ont leur point de vue, je ne le partage pas et vice-versa. Ce qui compte pour moi, c'est ce que je suis, c'est ma foi et mon éducation. C'est l'humanité et ce qu'il y a de juste à faire. En ce moment, j'attends l'autorisation d'aller opérer du côté californien pour déposer de l'eau. C'est pour bientôt, j'espère, parce que l'été arrive et les chaleurs ici sont démentielles. Pas loin d'ici, dans le désert, une dizaine de personnes sont mortes l'an dernier. Voilà pourquoi on demande des autorisations d'accéder à la zone pour opérer.
Loin d'être parfaitement continu, l'ouvrage en acier disparaît parfois sur des centaines de mètres. À quoi sert vraiment le mur alors ? Pour Fernando, c'est surtout un outil de communication politique.
En général, les autorités viennent chercher, disons, une centaine de personnes par jour à la frontière. C'est rapidement le chaos quand ce travail n'est plus fait pendant plusieurs jours. C'est ce qui s'est passé dans plusieurs endroits où on a vu des milliers de personnes amassées le long du mur. C'est là que les médias viennent et font leurs images, sans voir ce qui a mené à cette situation. Ah, tenez, ici, c'est un autre endroit où je laisse de l'eau et une couverture. Je me souviens l'an dernier, quand le titre 42 a pris fin. Vous savez, la mesure sanitaire qui avait été mise en place sous le Covid pour empêcher les migrants de venir. Eh bien, dans cette zone, on a vu débarquer une quinzaine de grands médias avec des caméras et ils sont restés 3 jours avant et 3 jours après la date butoir. Mais il n'y avait aucun afflux, aucun, parce que la mesure n'affectait que certains pays. Honduras, Salvador, Nicaragua notamment. Quand il y a afflux, c'est imprévisible. Ça dépend de la situation dans les différents pays du monde entier. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. On ne peut pas contrôler ce qui se passe dans le monde. Il y a tant de choses qui poussent les gens à quitter leur pays. Que les Américains le veuillent ou non, le rêve américain a encore du sens pour ces gens-là. Pour eux, il y aura toujours une chance, un espoir. Et c'est plus grand que de mettre sa vie en danger, que de souffrir le long du chemin. Les gens continuent de venir malgré ce mur qui a coûté Dieu sait combien à l'administration Trump.
Nous traversons la barrière. De l'autre côté, ce n'est pas le Mexique, c'est encore le territoire américain. À notre approche, des ombres courent se réfugier contre la barrière. Une famille, 2 femmes et 3 enfants, en panique. Fernando les rassure.
Ça y est, vous êtes aux États-Unis.
Surtout, Fernando leur donne des informations, une denrée précieuse sur ce territoire de la frontière où règnent les rumeurs.
Très important, quand les services de l'immigration vont arriver, ils vont vous donner un petit sac en plastique blanc. C'est tout ce que vous aurez le droit de transporter par la suite. Vos sacs à dos, il faudra les jeter. Il faudra mettre tout ce qui est important dans le sac plastique. L'argent, le téléphone, le chargeur, les photos et passeports. Et puis, très important aussi, il faut que vous ayez une adresse d'arrivée. Vous êtes une famille ?
Oui, on est 2 sœurs, ce sont nos enfants.
Il faudra leur dire la raison de votre départ. Pourquoi vous fuyez votre pays ?
On fuit à cause de la réalité à Cuba.
Sachez que vous serez détenu de 1 à 3 jours. Si vous avez un téléphone, appelez votre famille maintenant, car quand les agents arriveront, vous ne pourrez plus téléphoner.
Nous les appellerons Rosa et Mia. Voilà plusieurs mois que les 2 Cubaines, dont l'une est enceinte, sont entrées au Mexique avec leurs enfants. Elles ont suivi la procédure en ligne pour demander l'asile aux États-Unis via l'application mobile CPB One, en vain.
Ça fait 5 mois qu'on attend un rendez-vous. Rien ne vient alors qu'on est avec des enfants. Ils n'en peuvent plus, ils ne vont plus à l'école depuis 1 an. À part ça, on n'a eu aucun problème avec la population. Les gens sont gentils, ils nous conseillent de faire attention quand ils me voient avec mon ventre. Mais certaines personnes en profitent et pensent que nous avons beaucoup d'argent parce qu'on a fait ce long voyage coûteux. Ils nous volent ce qu'on a mis tellement de temps à récolter.
Agitées et en pleurs, les 2 femmes racontent un séjour au Mexique marqué par la violence des gangs, mais aussi par celle des autorités.
Cette fois, c'était des policiers. La première fois, des bandits armés, c'était quand on est arrivé dans le pays. Comme ils nous ont tout volé, on a dû passer 1 an au Mexique.
Il fallait bien qu'on récupère tout l'argent volé. Ils se moquent qu'on soit avec des enfants. Pourtant, je leur ai dit, regardez dans quel état je suis, regardez mon ventre, je vais avoir un bébé.
Beaucoup de gens mettent leur argent sur leurs enfants. Moi, jamais je ne ferai ça. Ceux qui nous ont attaqués, ils savaient où chercher l'argent. Ils m'ont pris mon portefeuille. 100 dollars, c'est tout ce que j'avais. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez. Ils me disaient d'arrêter de mentir et qu'ils allaient appeler la police de l'immigration. Je les suppliais de ne pas faire ça, de penser aux enfants. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Personne.
L'histoire de Rosa et Mia et de leur famille raconte la faillite du système de protection des réfugiés au Mexique comme aux États-Unis. Leur visage à nouveau se fige. Un pick-up vert et blanc vient de pointer son nez derrière nous. C'est la police aux frontières. Les deux femmes retrouvent leur calme. Elles embarquent direction un centre d'accueil de Yuma.
Vous parlez beaucoup, mais je préfère que vous parliez.
Retour à Nogales, côté mexicain cette fois. Un groupe de jeunes haïtiens plaisante tout près d'un immeuble d'habitation. C'est ici que César, originaire de Port-au-Prince, attend de pouvoir passer la frontière légalement. Il a pris rendez-vous sur l'application CBP One, objectif, rejoindre sa mère en Pennsylvanie.
J'aimerais pas que mon fils ou ma fille grandissent dans cette insécurité qu'il y a dans mon pays.
Donc là, vous avez rendez-vous demain ?
Rendez-vous demain, de bonne heure, à 6h30.
Qu'est-ce que vous ressentez ?
Pour moi, c'est l'anxiété. C'est la joie, l'anxiété. Parce que c'est une vie toute nouvelle. Et vous ne savez pas ce qui va vous arriver, ce qui vous attend. C'est comme recommencer à zéro.
À plus de 1000 km de là, la cuisine du Chué Letiar Sushi prépare le service de midi. Au fourneau, chef Jadim, une réfugiée birmane.
Right now is the Burmese specialty food.
Ce midi, nous préparons 25 commandes. Je propose des spécialités birmanes accompagnées de riz gluant. C'est tout nouveau dans l'Utah. Je veux faire découvrir des recettes traditionnelles de chez moi.
Le restaurant a bénéficié du soutien de l'International Rescue Committee, une association qui vient en aide aux personnes victimes de persécutions ou fuyant la guerre. Dans la halle flambant neuve au cœur de Salt Lake City, capitale de l'Utah, se côtoient des cuisiniers vénézuéliens, irakiens, somaliens. Pas si étonnant, nous explique Emily Park, la responsable du programme Spice Kitchen de l'International Rescue Committee.
C'est vrai, l'Utah, c'est une terre conservatrice. La population locale est incroyablement réceptive pourtant aux réfugiés et aux immigrants parce que la religion prédominante, l'Église mormone, a des missionnaires partout dans le monde. Donc on accueille favorablement ces différentes cultures. C'est plus difficile de détester quelqu'un quand on partage un repas avec lui. Vous apprenez à le connaître, vous vous ouvrez, il vous fait moins peur. Malgré l'incertitude politique, je pense que nos entrepreneurs et la communauté qui les entoure désormais ne seront pas affectés.
L'initiative revêt un sens particulier à l'heure où un ancien président, candidat à la Maison-Blanche, a accusé les migrants d'empoisonner le sang des Américains. Mais ce discours raciste porte et laisse des traces. Plusieurs sondages révèlent désormais que l'immigration est citée comme le problème numéro un par les Américains sondés, devant le gouvernement et l'état de l'économie.
Bonjour, Abla Jounaïdi.
Bonjour Patrick.
Au sein de la rédaction de RFI, vous suivez les questions américaines. L'immigration, thème éternel de la campagne américaine, aux États-Unis comme ailleurs, c'est bien la question des migrations et la place de l'étranger qui occupe les campagnes électorales. Aux États-Unis, malgré l'immensité du pays, il apparaît que c'est un thème fédérateur. Abla, vous avez fait le choix d'aller sur place, au contact. Je précise que ce reportage, vous l'avez tourné il y a un mois avec Julien Boileau. Pourquoi avoir fait le choix justement d'aller sur place, au contact, à la frontière ?
Alors c'est parce que c'est à la frontière que ça se passe globalement. Les entrées, et particulièrement les entrées sur le territoire américain de manière illégale, c'était le sujet chaud du moment parce que le mois précédent, en janvier, février et en décembre précédent, en fait, il y a eu des records d'entrées sur le territoire et d'interceptions par les gardes frontières de migrants illégaux. Donc c'était le sujet chaud dont on parlait avec des chiffres records et la fermeture de plusieurs points de passage dans l'Arizona. Donc il nous a semblé que c'était l'endroit endroit où il fallait aller, mais pas simplement près de la frontière, mais aussi voir les communautés dans les villes qui sont adjacentes, donc Phoenix, Tucson, pour essayer de voir comment les gens réagissaient à la fois à cette proximité-là avec cette question brûlante et aussi le débat et comment il est perçu partout, en fait, effectivement, sur le territoire américain.
C'est ça, ne pas le laisser à la hauteur des leaders politiques et des meetings politiques, ouais. Mais bien voir effectivement comment c'est ressenti sur place. Est-ce que le problème, il est réel? Et comment est-ce qu'on le vit?
Voilà, et au-delà des chiffres qui étaient cités, réhumaniser un peu la problématique, et donner des noms aux migrants qu'on croise et remettre à échelle humaine, en fait, cette problématique.
Alors, on sent en tout cas que le climat politique pèse très lourd sur la réalité des gens qui habitent dans cette région. Est-ce que pour autant, vous avez rencontré des difficultés particulières pour échanger avec eux, pour les faire parler de ce thème des migrations?
Alors, c'est un sujet sensible, très politisé et puis polémique et très complexe parce qu'il y a mille façons de voir le problème des migrations, en fait, selon que vous êtes un État, selon que vous êtes un voisin de la frontière, vous avez mille façons de le percevoir, selon que vous êtes immigré vous-même, enfant d'immigré. C'était assez sensible pour plusieurs interlocuteurs du fait même que c'est une problématique qui est prise en main par les politiciens avec des visées électoralistes. Certains interlocuteurs ne voulaient pas nous parler. Les fermiers qu'on a essayé d'interviewer, qui ont leur champ vraiment collé à la frontière, en ont marre de donner des interviews. Dans le contexte actuel, ils ne veulent pas que leurs propos soient déformés, utilisés, manipulés.
Ou manipulés, voilà.
Voilà, les organisations humanitaires qui viennent en aide aux migrants, elles sont menacées par notamment les groupes dont on parle dans le reportage, des groupes d'extrême droite qui viennent les voir, les menacent parce qu'ils estiment que ces organisations favorisent l'entrée de migrants et illégaux. Je dis migrants illégaux, c'est leur terme à eux, évidemment. Donc, c'est des ONG qui nous ont fait part du fait qu'elles ne pouvaient plus s'exprimer publiquement à cause de ça, ne voulaient pas qu'on mentionne leur nom, par exemple, ce genre de choses. Une des choses qu'on nous a racontées aussi, par exemple, c'est qu'il y avait des individus proches des groupes d'extrême droite qui venaient se faisaient passer pour des journalistes auprès des ONG pour recueillir leurs témoignages, filmer et ensuite raconter un peu à leur manière ce qui se passait à la frontière avec évidemment le prisme d'extrême droite, quoi.
Est-ce que pour autant cette question de l'immigration va influencer le vote des gens que vous avez rencontrés dans la région le long de la frontière?
Je pense que c'était le sujet chaud à ce moment-là. C'est un sujet qui est très facilement manipulable, utilisable à des fins électoralistes. Quand il y a un fait divers, effectivement, qui implique un immigré, notamment le camp républicain s'en saisit pour dire voilà ce que la politique de Biden engendre.
Alors, votre reportage à Blas se passe côté américain. Vous avez rencontré des migrants qui arrivaient du Mexique.
Ouais.
Est-ce que ça vous a donné envie de passer la frontière, d'aller voir de l'autre côté comment les choses se passent?
Oui, alors on a passé une tête côté mexicain dans le reportage. Oui, d'aller voir en fait côté mexicain comment notamment toute une économie s'est bâtie autour de cette question des migrations. En fait, à la fois, évidemment, il y a les cartels, il y a les groupes criminels qui profitent de cette situation, mais il y a toute une économie des agences de voyage, l'hôtellerie, tout ça, qui favorise cet afflux-là de migrants et qui compte pour une grande part dans l'économie mexicaine. Et puis le Mexique vote en juin prochain, donc c'était aussi un thème central.
Ça restera un thème transfrontalier. Merci, Abla Jonaïdi.
Merci à vous.
Le supplément au grand reportage, c'est fini pour ce matin. Merci à Ludivine Amado et Tiffany Menta. On se retrouve demain, 9h10, temps universel, pour une émission exceptionnelle, entièrement consacrée au Rwanda, 30 ans après le génocide, à entendre les reportages tout en finesse de Lucie Mouillot, notre correspondante à Kigali, et Amélie Tullet, notre envoyée spéciale. Dans un instant, le journal.